Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec une fille sans histoire de Constance Rivière. Constance Rivière a bien voulu m'accorder une seconde interview pour parler de ses deux premiers romans. Commençons par Une fille sans histoire. Donc Une fille sans histoire, c'est votre premier roman. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce premier roman? Parce que c'est toujours particulier, un premier roman, c'est celui dans lequel on met en général tout son cœur.
Alors d'abord, j'ai jamais pensé que j'allais un jour écrire des romans, et donc non seulement le sujet, mais le fait même de me lancer dans une écriture romanesque était quelque chose de très inattendu pour moi. Et c'est le sujet qui s'est imposé et qui s'est imposé avec l'idée que seule la fiction permettait de l'approcher. Moi, je me suis occupée des victimes des attentats en 2015, j'ai découvert 2 ans plus tard, en écoutant la radio, que parmi elles, certaines avaient tout inventé. Et je me suis dit, en réalité, comment est-ce qu'on a besoin d'exister au point de s'imaginer victime d'un drame qu'on n'a pas connu? Et j'ai eu le sentiment que seule la fiction, qui permet de ne pas être dans le blanc ou le noir, mais de cheminer un peu dans la grisaille de l'âme humaine, permettait d'éclairer une folie pareille, une folie tellement contemporaine.
Oui, alors c'est ça, oui, c'est une folie contemporaine. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez soulevé aussi une espèce d'un traumatisme commun. C'est-à-dire que, on va dire que cet attentat, particulièrement du 13 novembre 2015, il a fait de quasiment toute la France des victimes. Et cette femme-là, en plus, elle est tout près du cœur des lieux. Et effectivement, d'une certaine manière, même si elle ment, on peut dire qu'elle est victime.
Oui, c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire qu'Adèle, qui est l'héroïne du livre, elle est à la fois d'une folie et d'une solitude tellement radicale qu'on la met à distance, puisqu'on se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire cette chose atroce que d'aller à l'école militaire où sont accueillies les familles des victimes pour se faire passer pour la petite amie de quelqu'un qui est mort dans les attentats alors qu'on le connaissait à peine. Et en même temps, dans cette période-là, je pense que tout le monde sait où il a été et s'est senti, d'une certaine manière, victime de la violence qui touchait notre pays. On a quelque chose en nous qui aurait pu être cette Adèle qui passe de l'autre côté du miroir. Et c'était ça aussi qui m'intéressait. Et d'ailleurs, dans les courriers que j'ai reçus à la sortie du livre, certains me disaient que mon héroïne était tellement atroce qu'il n'avait pas réussi à entrer en empathie avec elle, et d'autres au contraire me disaient, mais en réalité c'est moi, j'aurais pu être Adèle. Donc il y a cette ambiguïté assez fondamentale au cœur du livre qui était aussi ce qui m'intéressait.
Oui, et je trouve que même votre personnage, celui qui s'appelle Saïd, quelqu'un qui aide, on va dire, qui est de l'extérieur, il nous rappelle aussi notre culpabilité commune dans cet attentat, dans cette histoire, quoi. C'est-à-dire que y avait aussi le besoin d'avoir des victimes qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui soient des bonnes victimes, on va dire. Et elle est ça, et donc on a l'impression... Enfin, je trouve que dans ce que vous racontez, c'est que tout le monde s'engouffre, enfin, a envie qu'elle soit vraie, quoi.
Parce que, effectivement, à la fois comme société et individuellement, il y a eu le besoin de trouver une forme de résilience en s'appuyant sur les victimes. Là, en l'occurrence, en idolâtrant une fausse victime ou en accompagnant une fausse victime. Mais on a fait ça aussi avec les vraies victimes, comme si on leur demandait à elles aussi de nous aider à dépasser ce drame qui pourtant avait d'abord été le leur. Et je pense que Saïd, il représente ça, cette culpabilité cette culpabilité aussi de ne pas être lui-même victime, de ne pas en faire assez, et ce désir qu'on est beaucoup à avoir, je pense, de sauver l'autre comme une forme de syndrome du Saint-Bernard, quoi.
Oui, c'est ça. Et en même temps, c'est l'autre qui, on sauve l'autre, et en même temps, c'est l'autre qui vous sauve parce que, ce que je disais avec l'expression bonne victime, elle est parfaite, quoi.
Oui, elle est parfaite, et c'est en ça qu'elle est l'exact contraire de l'héroïne de mon dernier roman, L'Incendiaire, qui, elle, essaye d'alerter sur des drames, mais le fait en agaçant les gens autour, et donc on n'a pas envie ni de l'aider ni de l'écouter, alors qu'elle dit des choses vraies, et Adèle dit n'importe quoi, mais en se présentant exactement comme on imagine qu'une victime devrait se présenter, et cette apparence-là l'emporte sur la réalité.
Oui, c'est ça, on a l'impression que, enfin, au départ, elle ment pas vraiment, elle se retrouve presque là par hasard, et puis en fait, c'est comme si elle était portée, quoi, par tout le monde, et elle se rend compte que ben ça va être un moyen pour elle d'exister et de devenir autre chose qu'une fille sans histoire.
Exactement, exactement.
Lecture d'un extrait du premier chapitre. Ce soir-là, cela faisait au moins 3 heures qu'Adèle était assise à sa fenêtre. Elle s'était presque assoupie, la tête heurtant régulièrement l'ouvrant, la réveillant aussitôt que les rêveries prenaient le pas sur ce qu'elle voyait de la vie des autres. C'est dans cet état de semi-conscience, son esprit perdu quelque part entre les songes qui l'habitaient et la réalité qui la nourrissait, que lui parvinrent les premiers bruits, des hurlements de sirènes qui portaient en elle l'urgence, le drame et l'effroi. Adèle ne pouvait rien voir que les toits et les fenêtres de l'autre côté de sa cour. Mais ces bruits avaient envahi son salon. Ça lui faisait mal, elle sentait que quelque chose était en train de basculer. Elle ne savait pas quoi, mais le basculement était bien là, de plus en plus fort, dissociant son corps et sa tête. Affreuse douleur qui pulsait sous ses tempes, sensation de vertige qui l'attirait vers le vide, dehors, là où les cris l'appelaient. Il lui fallut un effort énorme pour repousser son corps à l'intérieur, poids lourd, passif, pas à sa place, écrasé maintenant sur le sol du salon, alors qu'elle se sentait ailleurs. Cette lutte l'avait épuisée. Les sirènes redoublaient, ça cognait dans sa tête et ça rebondissait sur ses murs. Trop de bruit pour un drame du quotidien. Elle l'avait senti tout de suite, elle n'était pas folle, quelque chose de terrible était arrivé, et ce n'était pas seulement en elle. Adèle finit par allumer la télévision. Ne plus deviner mais voir, ne plus inventer mais comprendre. Tous ces bruits dehors, c'était trop violent. Ça avait fait sauter les plombs de son imagination. Trop lourd pour sa bande passante. À l'écran, on mentionnait un attentat à Saint-Denis, à côté du Stade de France. Le président de la République y était, en partait. Son ministre de l'Intérieur l'avait rejoint. Mais ils étaient déjà en train de rentrer à Paris, repasser le périphérique, s'éloigner des premières explosions qui avaient à peine perturbé le match, tout juste un regard d'interrogation, et le doigt levé vers le ciel d'un joueur au milieu du terrain, bruit de pétards lointains au milieu des cris et des sifflets, ces explosions dont il ne fallait surtout pas qu'elles perturbent le match. Tout devait continuer comme avant, tout plutôt qu'un mouvement de panique, même pour ceux qui savaient ne pas bouger, rester face caméra, concentrés sur le jeu. À la fin, on dirait au public ce qui se passait. Les pelouses pourraient être envahies de visages hébétés. On pourrait dire, parce qu'on saurait qu'il n'y a plus de risque. Les gens descendraient calmement, mais s'ils cherchaient à descendre tout de suite, ce serait la crise, les bousculades, la menace de corps écrasés par la peur des autres. Les stades ne sont pas faits pour les mouvements de foule, donc les autorités étaient partie discrètement, le moins nombreuse possible, pour rentrer dans le centre de Paris où d'autres coups de feu, d'autres cris ailleurs, mais pas sans lien. Les journalistes parlaient d'un bar, puis d'un autre, sans rien savoir vraiment, sauf que ça bougeait, ça se démultipliait, monstre à 12 bras, et autant d'armes qui tiraient sur la vie pour l'anéantir où qu'elle rit, où qu'elle boive, où qu'elle chante. Ça bougeait, ça tuait, mais pas si près de chez elle. Elle ne discernait toujours pas pourquoi. Elle avait pu percevoir quelque chose, ni si ce qu'elle entendait par sa fenêtre avait un lien avec ce qu'elle voyait dans l'écran. À la télévision, on montrait surtout des voitures fonçant dans la nuit vers les ministères, l'Élysée, pour mettre en place des procédures, réunir des gens et prendre des décisions sur des événements que personne ne comprenait. De là où elle était, Adèle sentait que les rues soudain se vidaient, que l'air de dehors n'était plus pur, mais chargé de peur, une peur qui la saisissait elle aussi, pourtant toujours assise sur le sol de son salon, enveloppée dans une couverture comme on n'en fait plus, en laine grise, rêche mais chaude, un œil sur les fenêtres en face qui restaient fermées, éteintes, sourdes à la rumeur de la ville, un œil sur l'écran de télévision qui amplifiait cette rumeur de terreur. La peur qui revenait, la peur qu'elle avait connue il n'y avait pas si longtemps. Autre bruit de sirène dans la nuit emportant son père inanimé, la peur qu'elle pensait avoir oubliée, la peur qui reprenait possession de tout son corps, mélangeant le passé et le présent, l'intérieur et l'extérieur, la veille et le sommeil. Lecture du chapitre 5. Adèle sentit immédiatement, instinctivement, sans y avoir réfléchi, qu'elle pourrait trouver dans ce drame où elle avait été projetée presque par hasard, en tout cas par une force qui lui avait échappé, une raison d'être, une densité, une consistance. Enfin, les parents de Mathéo allaient avoir besoin d'elle, ils la regarderaient, ils la considéreraient, ils ne l'ignoreraient pas. Il n'y aurait pas qu'eux, elle serait aussi une victime de cette tragédie qui endeuillait la France, par ricochet certes, mais une victime quand même. On le lui avait bien dit à l'école militaire, les proches des victimes sont des victimes, la blessure du deuil c'est une blessure comme un coude brisé ou une jambe trouée, être victime c'est être touché, peu importe comment. Saïd le lui avait expliqué de manière très claire et on ne se moque pas des victimes, on les écoute, on leur fait une place. On pourrait l'être tous, donc on fait attention. D'ailleurs, on l'est peut-être déjà, et elle se sentait victime bien avant cela. Mais sans l'estampille étatique et la reconnaissance médiatique, ce n'était pas pareil. Il fallait rester avec ses problèmes et ses douleurs, invisibles, se taire et attendre. Rien, le plus souvent, attendre rien. Mais s'il vous plaît, en silence et sans se faire remarquer. C'était fini, cette attente muette. Elle serait reconnue comme une victime. Elle n'aurait plus à se taire et se cacher. Déjà des vagues lui gonflaient le corps. Elle se transformerait bientôt en mots, en plaintes, en craintes, en revendications. On verrait sous quelle forme, mais elle sortirait. Merci Constance Rivière pour cette rencontre avec une fille sans histoire.